Au cours du premier trimestre 2009, 58 000 incidents de masse ont, selon le Parti communiste chinois, perturbé l'harmonie de la société chinoise. Bigre, 58 000 grèves, sauvages puisqu'interdites. Manifestations, sauvages également. Blocage de voies, affrontements avec les flics, occupations et incendies de bâtiments publics. Saccage d'usines, lynchage de cadres et de patrons. Émeutes, etc., etc. Des chiffres qui ne prennent pas en compte les pétitions, sit-in et autres formes plus modérées dont usent abondamment les protestataires qui font face, rappelons-le, à une dictature particulièrement sévère. Des chiffres qui connaissent une augmentation remarquable depuis quelques années. Alors, discipliné, la main-d'œuvre de l'atelier du monde.
Le capital mondial en Chine se développe sur le dos de 400 millions, au moins, de prolétaires. Parmi ceux-ci, les quelques 150-200 millions de travailleurs migrants, la plupart sans papier, les Mingong.
On appelle travailleurs migrants les prolétaires issus de l'exode rural. Le plus souvent, ces ruraux ne disposent pas d'un permis de résidence, ce qu'on appelle un hukou urbain. Ils doivent donc être considérés comme des sans-papiers de l'intérieur et sont à ce titre exploitables comme les immigrés dans d'autres pays.
Les Mingong, comme tous les sans-papiers du monde, forment une main-d'œuvre idéale. Enfin, plus exactement, formeraient, si leurs conditions d'exploitation ne les poussaient pas à se révolter de plus en plus. Le fait qu'en Chine, ce sont des Chinois qui forment cette masse laborieuse indique que la question des migrations et des papiers est peut-être plus une question de travail, c'est-à-dire d'exploitation, que de frontières, c'est-à-dire d'État.
Les rapports entre travailleurs asiatiques et occidentaux sont plus étroits qu'on pourrait le croire. Le faible coût des produits que les premiers fabriquent et que les seconds consomment de manière croissante permet en Occident de tirer les salaires vers le bas, de diminuer le coût de la reproduction de la force de travail. Or, si les luttes des ouvriers chinois entraînent une hausse de leurs salaires, le prix des biens qu'ils produisent augmenteront également. Alors, le problème du pouvoir d'achat, en fait des salaires, risque de se poser encore plus sévèrement en Occident. La Chine étant le premier exportateur mondial de téléphones portables, de cartes mères, d'appareils photo, d'aspirine, de vêtements pour bébés, de chaussures, de jouets, de briquets, etc. On peut imaginer que cela s'accompagnera à terme, en réponse, d'une combativité croissante. Les prolos occidentaux, avec ou sans travail, ayant de moins en moins à perdre. On le constate d'ores et déjà. Bien que patrons et gouvernants brandissent la menace chinoise pour faire pression, les travailleurs occidentaux ne sont pas, eux non plus, aussi soumis qu'on voudrait nous le faire croire. En France, l'État reconnaît d'ailleurs que depuis plusieurs années, la conflictualité du travail est devenue plus intense et que le nombre de grèves est en hausse. Les divers outils de pacification devenant de moins en moins opérants, on peut s'attendre à ce que la répression s'intensifie encore.
L'harmonie sociale n'existe pas plus en France qu'en Chine ou ailleurs. La guerre sociale est internationale et tout laisse à penser qu'elle n'est pas prête de s'apaiser. Au contraire. D'ailleurs, qu'on le veuille ou non, nous sommes tous pris dans cet antagonisme quotidien et, quels que soient nos moyens et nos perspectives, plus ou moins activement, nous y prenons part.